Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Vous êtes toujours sur Radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. Eh bien, aujourd'hui, à 7h, le nouveau volet de l'émission Mode d'emploi, animé par l'équipe de la Fondation Copernic, et cela comme tous les quatrièmes vendredis du mois. Aujourd'hui, bien, pour présenter cette émission, Didier et Mathieu, et Claude, hein, toujours fidèle à la technique. Alors aujourd'hui, l'émission est consacrée à la nouvelle organisation territoriale de la République, effectivement à quelques jours de la nouvelle échéance électorale pour les élections régionales. Que peut-on dire des modifications apportées par les différents dispositifs législatifs, et en particulier par la loi NOTRe? On s'interrogera entre autres sur pourquoi un regroupement des régions, hein, quel est le rôle aujourd'hui des métropoles dans ce nouveau contexte territorial. Et peut-être et certainement aussi s'interroger sur les conséquences sur les solidarités territoriales qui existent aujourd'hui et la démocratie locale. Comme l'a dit Manuel Valls, la réforme territoriale serait la mère de toutes les réformes. Donc l'enjeu est d'importance. Et pour tenter de répondre à ces différentes questions, nous avons trois invités aujourd'hui. Antoine Beyer, qui est enseignant-chercheur en géographie et en aménagement du territoire à Paris-Sorbonne. Bonjour Antoine.
Bonsoir.
Mathieu Agostini, qui est avec nous dans les studios, qui est secrétaire du Parti de gauche.
Bonsoir.
Et par téléphone, depuis Lille, David Guéranger, qui est chercheur en sciences politiques et enseignant à l'école des Ponts. Bonjour David.
Bonjour.
Eh bien, nous t'entendons très bien, donc tout le monde est là. Comme vous le savez, écoutez, cette émission, vous pourrez la réécouter mercredi prochain à 7h du matin pour les leftos, toujours sur Radio Fréquence Paris Pluriel, ou bien la podcaster, comme l'ensemble des émissions précédentes, sur le site internet de la Fondation Copernic, www.fondation-copernic.org, ou sur le site de Mode d'emploi. Bien, bah écoutez, pour commencer cette émission, peut-être on peut passer la parole à qui voudra bien la prendre. Je vous propose qu'on essaie peut-être de retracer un peu l'historique de la décentralisation en France. La France est un pays plutôt à tradition jacobine, hein, où l'État central est important et fort. Néanmoins, on voit bien que depuis maintenant quand même plusieurs dizaines d'années, le pouvoir politique, économique, le pouvoir social aussi, hein, par exemple sur les départements. Donc le pouvoir en général est en partie transmis aux collectivités territoriales. Peut-être qu'on peut commencer sur cette première idée. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce processus de décentralisation, de cet historique de la décentralisation en France? Est-ce qu'on peut demander à David de démarrer là-dessus? Est-ce que c'est possible?
Oui, avec plaisir. Je vais essayer d'être rapide, oui. Parce qu'on pourrait en faire une longue histoire de la décentralisation en France. Le premier constat qu'on peut faire, c'est que les phénomènes de décentralisation institutionnelle, c'est pas des phénomènes spécifiquement français, c'est-à-dire que toutes les démocraties occidentales, qu'elles soient en Europe ou dans d'autres, sur d'autres continents, elles ont tendance à décentraliser leur système institutionnel. Donc ça, c'est une première remarque, c'est une tendance de fond de la transformation de nos systèmes institutionnels démocratiques. Et puis la deuxième, c'est qu'effectivement, en France, même si on trouve les prémices de la décentralisation dans une histoire longue, c'est-à-dire dès la fin du 19e siècle, il y a eu un phénomène d'accélération depuis le premier acte de la loi de décentralisation, donc les lois de fer, les lois cadres des années 80-82, hein, juste après l'alternance gouvernementale. Il y a eu un acte 2 qui a été signé par le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, avec deux lois en 2003 et 2004 en particulier, et notamment qui ont transféré un certain nombre de pouvoirs aux régions. Et puis il y a eu le troisième acte qui vient de s'achever là par le vote de la loi NOTRe. Alors la loi NOTRe n'est pas la seule loi de l'acte 3. Il y en a eu une première qui s'appelle la loi MAPTAM, qui a créé, enfin en tout cas initié la création des métropoles. On pourra revenir sur les conséquences attendues de ces créations. Et puis il y a eu un deuxième volet législatif ensuite sur les redécoupages des régions, sur lequel effectivement l'actualité porte ses feux aujourd'hui, hein, du fait de la proximité du scrutin. Et puis la loi NOTRe qui est passée pendant l'été sur la réorganisation des compétences entre les différents échelons institutionnels. Voilà, donc ça c'est pour le paysage législatif d'ensemble. Après, juste une remarque pour en finir, la France tradition jacobine, alors certes on a un appareil d'État qui est extrêmement fort en France, en même temps il faut apporter deux petites nuances à ça. La première c'est de dire qu'on a un appareil d'État qui est aussi déconcentré, c'est-à-dire qui est présent dans les territoires, et donc on a une présence dans les territoires d'un appareil administratif national. Et ça, ça crée des formes de décentralisation qui ne se disent pas, c'est-à-dire notamment via les collaborations qui existent entre les élus locaux et les services déconcentrés de l'État. Et puis la deuxième chose, c'est que on a historiquement aussi, tout au long du XXe siècle et puis encore aujourd'hui, une imbrication très très forte entre le profil des élites politiques du niveau gouvernemental et les élus locaux. C'est-à-dire que on est bien en peine de trouver des ministres, par exemple, ou un président de la République qui ne soit pas aussi, d'abord, et peut-être aussi ensuite, hein, demain, un élu local. Ça donne une image un peu nuancée de cette tradition jacobine à laquelle vous faisiez référence tout à l'heure, en montrant que, en fait, bien difficile de trouver et de démêler ce qui relèverait d'une logique exclusivement centrale d'une part et ce qui relèverait d'une logique exclusivement locale de l'autre. Voilà.
Une première remarque peut-être, alors, et auxquelles les personnes présentes ici pourront peut-être ajouter un point. Vous avez parlé de loi de fer, vous avez parlé des lois Raffarin, hein, de l'acte 2 de la décentralisation. On a bien l'impression là quelque part que ça transcende les clivages politiques. On a visiblement un accord, que ce soit sur la droite disons classique et la gauche classique, on a un accord pour aller vers plus de décentralisation. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça?
Alors oui, on peut le dire, et c'est d'ailleurs pour des militants de gauche, à mon avis, un motif d'interrogation à avoir. C'est-à-dire que il y a un consensus politique très très large au sein du personnel politique sur la nécessité ou les vertus de cette décentralisation. Pour ne prendre qu'un seul exemple, c'est-à-dire celui de la dernière campagne présidentielle, il y a eu un unanimisme des partis de gouvernement, hein, comme on les appelle, sur la nécessité, alors pour les plus consensuels, de poursuivre le mouvement de décentralisation qui avait été amorcé les années précédentes par d'autres gouvernements. Pour les plus prudents, éventuellement de mettre en place un moratoire, hein, c'était la position de Jean-Luc Mélenchon sur le sujet. Et finalement, les seules critiques aujourd'hui qui sont formulées à l'égard de la décentralisation, elles viennent pour l'essentiel du Front National. Et donc notamment sur le cas de la campagne présidentielle, la dernière campagne présidentielle de Marine Le Pen, qui critiquait, alors avec des mots je reprends mais en y mettant tous les guillemets qu'il faut y mettre, qui critiquait d'une part la gabegie financière, c'est-à-dire les conséquences financières de ces processus de décentralisation, d'une part, et d'autre part ce qu'elle appelle, elle, le renforcement des baronnies, c'est-à-dire le fait que on assiste, si je le redis avec des mots plus neutres du politiste, on assiste à une forme de concentration du pouvoir autour des présidents exécutifs locaux. Voilà. Donc oui, un unanimisme politique qui concerne une grande part de l'échiquier politique, mais pas tout l'échiquier politique.
Mathieu Agostini ?
Oui, quelques nuances quand même à ce qui vient d'être dit. Dans la mesure où je suis pas d'accord avec l'idée que les seules critiques des politiques de décentralisation viendraient de l'extrême droite de l'échiquier politique, en l'occurrence le Front de gauche et le Parti de gauche sont fermement, on en reparlera plus avant tout à l'heure, mais opposés à la réforme territoriale telle qu'elle est déclinée aujourd'hui. Moi, je évidemment, l'idée de décentralisation, c'est pas une idée qui est étrangère à la gauche. Et moi, je vois une vraie différence entre les politiques de décentralisation des années 80 et les actes 2 et 3. C'est que ce qu'on appelle l'acte 1 de décentralisation, les lois de fer, elles avaient pour objectif de libérer les collectivités territoriales et notamment les communes. Et ça me paraît important, c'est-à-dire qu'on est à cette époque dans une période politique où c'est une marque importante de l'attachement à la démocratie communale. Or, ce qu'on constate avec les actes suivants de décentralisation, c'est tout le contraire, c'est que ces actes de décentralisation vont s'attaquer directement à la démocratie communale. Donc c'est un des éléments qui font qu'aujourd'hui on combat fermement, contrairement à ce qui a été dit, ces politiques de décentralisation là.
Oui.
Je pense effectivement que la France a un problème avec ses régions. C'est-à-dire que pour elle, il y a cette image aussi de l'ancien régime des provinces. Si on parle de baronnie, de duché, etc., il y a toujours cette crainte de donner trop de pouvoir aux régions et de laisser une sorte de dérive qui conduirait à l'éclatement de la France. Il y a une crainte de ce type-là. Et la troisième décentralisation qu'on vit, en fait, ce n'est pas une décentralisation véritable, à mon avis, c'est une recentralisation où l'État, effectivement, par le biais des budgets, tient fermement ces territoires de peur d'éclatement. Et je pense qu'il faut plutôt lire cette troisième phase lancée par Valls autour des métropoles et des grandes régions comme une volonté de créer des solidarités, de redistribution au sein de ces grands ensembles.
Oui, je suis content qu'on aborde cette question parce que c'était moi-même une interrogation que j'avais, parce qu'on voit bien l'acte 1 comme l'acte 2, on a effectivement bien l'impression qu'il y a eu un processus de décentralisation de certains types de pouvoirs économiques, que je disais sociaux et autres. C'est vrai que avec les métropoles, avec l'intercommunalité et avec le regroupement des régions, on serait tenté de dire on est plutôt dans un processus de recentralisation de certains des pouvoirs qui étaient alors on a eu d'ailleurs une phase un peu compliquée à un moment donné où on a beaucoup discuté de savoir si en France on maintenait ou non les départements, hein. Les départements ont été maintenus certainement parce que bon, il y avait le rôle social, hein, des départements en matière de revenus de solidarité active, en matière d'aide aux personnes âgées, d'enfance, fait qu'il paraissait peut-être difficile de ne plus avoir un niveau tel que département. Enfin, c'est un peu l'impression qu'on a. Est-ce que Mathieu Goscinny et puis David Guéranger?
Oui, mais je pense que il y a un double mouvement qui est en train d'être opéré, c'est-à-dire que elle est extrêmement hybride cette nouvelle réforme, c'est-à-dire que on a un effet de recentralisation en même temps qu'on a un désengagement de l'État. Hein. Donc on a des échelons politiques absolument énormes avec des grandes régions gigantesques et des pôles métropolitains et à l'inverse la démocratie locale elle est attaquée, elle est cassée, hein. Donc c'est pour moi totalement révélateur du pourrissement de la Ve République. C'est-à-dire que l'idée de décentralisation, je le disais, elle n'est pas étrangère à la gauche, mais la décentralisation, c'est pas un système politique, c'est un mouvement. Donc la question de fond, c'est de savoir qu'est-ce qu'on décentralise. Si on décentralise la Ve République, si on décentralise un système présidentiel, on se retrouve avec ce qu'on va avoir là, c'est-à-dire des baronnies. Des baronnies de grandes régions, avec ce qui a bien été dit tout à l'heure, une imbrication forte entre des élus, barons, locaux, qui vont s'enfermer dans des cénacles opaques, élus au suffrage indirect, voire très indirect, et cette imbrication entre les élus locaux, barons, potentats, et l'administration est tout à fait révélatrice du pourrissement, justement, de la Ve République.
David Guéranger, une réaction peut-être aussi, si vous pouvez.
Il y a beaucoup de choses. Hein. Alors, juste une petite précision historique, hein, sur les différences entre l'acte 1 et les actes 2 et 3. Alors, il faut là aussi nuancer un petit peu ça. C'est-à-dire que l'acte 1, les lois cadres, elles prévoient dès le départ le développement de l'interco. Hein, c'est-à-dire que les lois cadres annoncent une réforme, entre autres, d'application, et il y en aura plein d'autres, hein, sur les régions et sur les compétences transférées, etc., mais qui est le regroupement communal dans la veine de ce qu'avait préconisé le rapport Guichard sous la mandature précédente, hein, le rapport Guichard en 76, qui disait « Ok, on décentralise, mais à une condition, c'est que les communes se regroupent. » Ça, c'est l'esprit du rapport qui a été présenté au président de la République en 1976 par la Commission de développement des responsabilités locales et qui, à peu de choses près dans l'esprit, est repris au moment de l'alternance en 81 et 82 dans un sens contraire, c'est-à-dire dire « bon, on décentralise et puis on verra pour le regroupement après ». Mais le regroupement est quand même quelque chose qui est annoncé. Donc le rapprochement municipal, c'est quelque chose qui est une vieille histoire, c'est-à-dire que ça ne date pas du tout des années 80-82, c'est quelque chose qui puise ses racines à la fin du 19e et qui est même travaillé et incité sur le plan institutionnel dès la fin des années 50. La création des communautés urbaines, par exemple, c'est les années la décennie 1960. Donc, il n'y a pas une rupture aussi nette entre l'acte 1 et les actes 2 et 3. C'est une première remarque que je voulais faire. La deuxième remarque que sur la recentralisation, alors je suis embarrassé pour répondre parce que mon intervention du tout début essayait d'expliquer justement cet embarras à démêler ce qui relèverait du centre et ce qui relèverait de la périphérie. Et donc, là où je peux tomber d'accord, mais sans forcément vouloir appeler ça recentralisation, c'est sur le fait qu'il y a un partage via les lois telles qu'elles sont aujourd'hui élaborées de cette idée qu'il faut réduire les déficits publics et réduire la dépense publique. Et donc, ce qui, me semble-t-il, est effectivement nouveau de ce point de vue-là, c'est moins le cadre institutionnel et la façon dont il est pensé, parce que ça, pour le coup, il y a une vraie continuité, c'est-à-dire que on continue à dire il faut donner plus de pouvoir aux collectivités locales, bigger is better, c'est-à-dire en gros plus c'est grand, plus c'est bien, hein, on fera mieux à plus large échelle, que ce soit quand on groupe les régions, quand on groupe les communes. Donc ça, de ce point de vue-là, il y a une espèce d'idéologie ou de paradigme qui est relativement constant. En revanche, ce qui est effectivement nouveau, c'est que dans l'application de ce paradigme-là, il y a des contraintes financières et budgétaires inédites qui viennent s'opérer et qui diffèrent très largement de ce qu'on a connu à la fin des années 90 ou au début des années 2000. C'est-à-dire que le législateur, à la fin des années 90 ou au début des années 2000, il était capable de produire des lois de regroupement communal en dotant ces regroupements de subventions extrêmement généreuses. Et aujourd'hui, il en est beaucoup moins capable. Et dans le même temps, effectivement, il réduit les dotations aux communes. Donc je pense que tout le monde a suivi les grandes mobilisations de l'Association des maires de France qui a eu, ont été amorcées à la fin de l'été et qui a eu à la rentrée, là, hein, quelque chose d'assez inédit, me semble-t-il, enfin du point de vue de sa médiatisation dans le paysage politique local. Et on voit bien que sur ces questions-là, les enjeux sur le centre versus la périphérie, avec toutes les précautions que je voudrais mettre autour de ces termes, ils sont finalement autant contenu dans les lois de décentralisation que dans les lois de finances. Et donc très concrètement, je pense que pour aller chercher la clé de ce débat sur décentralisation, recentralisation, pour autant qu'on puisse réussir encore une fois à la trouver, je me demande si c'est pas moins dans les réformes institutionnelles, de type institutionnel, que dans les transformations, par exemple, des règles budgétaires.
Est-ce que par rapport à vos études, vous pouvez nous donner une comparaison européenne par rapport aux autres pays occidentaux, où se situe la France par rapport à ce degré de décentralisation et éventuellement par rapport à ce deuxième mouvement qui est quand même plus ambigu que le premier?
J'aimerais bien, mais je dois vous confesser mon incompétence sur la comparaison européenne et sur ses aspects financiers. Je suis pas du tout outillé et suffisamment aguerri pour vous répondre sur cette question-là. Je ne pourrais que renvoyer à d'autres collègues qui travaillent.
Antoine Beyer, vous allez prendre la parole.
Je pense déjà il y a un point fondamental, c'est-à-dire dans les pays fédéraux. Les régions ont des compétences législatives, donc ont une autonomie, une décision qui est déjà plus importante et qui n'existe pas du tout dans le cas français.
Ce qui commence à être le cas avec la loi NOTRe, hein, puisque les nouvelles régions ont maintenant droit à la compétence législative.
Beaucoup moins qu'en Espagne, en Allemagne. En revanche, là où je pense, évidemment, sur la dimension démocratique, ça pose un véritable... Dans la conception même, ne serait-ce que pour les échéances électorales, au lieu de faire comme on fait en Allemagne, c'est-à-dire que les scrutins soient répartis région, 2-3 régions à échéance de 2-3 ans, c'est-à-dire découpler les élections du contexte national... Le fait qu'on organise le même jour les élections sur l'ensemble du territoire donne une dimension et un paysage, enfin l'inscrit dans le paysage national de fait. Et donc on est toujours à l'échelle, à une sorte d'échelle régionale, mais les interprétations seront forcément nationales. Et donc je pense qu'on gomme un peu ces réalités-là. De même que les listes sur ces grandes régions favorisent les grands partis et tout le système existant et ne permettent pas l'émergence d'un renouveau politique qui pourrait émerger.
Si on veut être un petit peu plus concret, est-ce qu'on peut rappeler, qui veut bien le rappeler, les compétences de chacun des niveaux territoriaux, régions, départements, communes, intercommunalités, et après peut-être on passera à la question des métropoles, mais avant ça, refaire un peu le paysage tel qu'il est jusqu'à maintenant. Est-ce que David, peut-être, éventuellement, et je sais que vous êtes vous-même un peu spécialisé des questions de transport. Le transport, c'est la région. Peut-être qu'on peut reprendre par ce bout-là.
Alors, c'est à moi que la question est posée.
Peut-être, oui.
Alors, je vais être obligé d'être un peu rapide, mais les questions de transport, effectivement, sont progressivement transférées à la région. Alors, pour des compétences qu'elle exerçait déjà, notamment sur le transport ferroviaire régional. Mais maintenant sur le transport interurbain, sur la voirie, les voiries nationales également, avec des transferts de services qui vont découler du département aux régions. Elle est productrice dans l'esprit de la loi NOTRe d'une forme de schématologie, c'est-à-dire de tout un ensemble de schémas qui doivent dicter à la fois l'aménagement de l'espace, enfin organiser l'aménagement de l'espace, organiser le développement des transports, organiser également le développement économique. Et donc c'est ce rôle de chef de file, hein, pour reprendre les termes qui sont consacrés par le législateur, de chef de file sur toutes ces dimensions d'aménagement qui sont transférées aux régions, en plus des compétences récentes sur les lycées par exemple qu'elle avait auparavant. Pour ce qui est du département, il est très largement cantonné à l'action sociale. Alors derrière ça, il y a l'attribution des minima sociaux, le RSA, l'APA, etc. Et puis après, il y a un jeu extrêmement, alors beaucoup plus flou, même si la répartition telle que je viens de la présenter ici, elle est très théorique, et donc il va falloir regarder aussi en pratique comment tout ça se met en place. Hein. C'est-à-dire que on voit que il y a des marges de négociation, de conventionnement qui sont possibles et qui sont ouvertes par la loi NOTRe et qui sont assez bien illustrées par ce qui se passe sur ce qu'on appelle aujourd'hui le bloc communal. C'est-à-dire que on a entériné dans les lois récentes l'idée que on avait abandonné à peu de choses près l'idée de spécialiser les compétences entre le niveau communal et le niveau intercommunal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de bloc communal pour faire exister une entité multiniveau qui organise tout un ensemble de compétences, les transports urbains, les réseaux techniques, c'est-à-dire là en l'occurrence la loi NOTRe a enfoncé le clou là-dessus, c'est-à-dire sur la gestion de l'assainissement, de l'eau potable, sur des compétences techniques historiques qui sont alors à côté des transports urbains également la gestion et la collecte des déchets, la gestion des problèmes et des plans climat liés au climat. Donc c'est un petit peu comme ça que se construit aujourd'hui l'architecture territoriale. Une petite dernière précision, c'est que il y a un article assez intéressant qui figure dans la loi NOTRe qui montre que pour un ensemble de compétences qui ont à voir avec les langues régionales, avec la culture et avec d'autres domaines comme ça, les régions, les départements et le bloc communal vont continuer à s'organiser et à s'arranger pour voir comment ils se répartissent les compétences. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la logique de spécialisation des compétences qui continue à avancer et qui constitue effectivement un autre des paradigmes qui guide, alors avec des soubresauts, mais néanmoins qui guide les réformateurs dans la façon dont ils pensent notre architecture institutionnelle. Cette loi de spécialisation des compétences, elle bute sur des exceptions. On voit aujourd'hui que l'Association des maires de France est un lobby suffisamment puissant pour avoir endigué la fuite des compétences de la commune vers l'interco et organisé cette solidarité presque financière et organique entre les deux niveaux, la commune et les EPCI. Les établissements publics de coopération intercommunale, et que par ailleurs, la loi, encore, y compris la loi NOTRe, dans un de ses articles, laisse ouverte la possibilité qu'il y ait des modalités d'organisation qui soient assez différentes d'un territoire à un autre.
On y reviendra peut-être tout à l'heure dans la troisième partie un peu de ce débat autour des possibilités d'une démocratie plus forte au niveau des territoires, mais on sait qu'au niveau de la gauche, il y a un débat sur l'intercommunalité. Mathieu Agostini.
Oui, tout à fait. D'abord pour dire que moi je partage l'idée qu'il faut aller chercher l'explication de cette réforme dans la baisse des dotations. Je pense que la loi NOTRe et celles qui ont précédé sont des outils de déploiement et d'organisation du territoire et des outils de déploiement des politiques d'austérité aujourd'hui en France. Je pense que le fait de créer des échelons politiques non démocratiques ou adémocratiques permet de limiter extrêmement fortement la capacité de résistance des peuples. C'est un vrai affaiblissement du pouvoir démocratique face à un objectif qui est celui qui est affiché par la loi d'ailleurs, hein, qui est celui de la concurrence, de la compétitivité, et qui aujourd'hui organise notre territoire avec la primauté et la domination de pensée politique, économique et financière, au détriment d'un projet politique collectif répondant à l'intérêt général. C'est extrêmement important de voir ça et de comprendre ça. C'est-à-dire que c'est vraiment une loi qui vient agir comme à la fois un verrou et une organisation de la compétition entre les territoires. C'est le bras armé du pacte de responsabilité. Le pacte de responsabilité, c'est 50 milliards d'euros d'économies, dont 11 milliards juste pour les collectivités. Donc on va se retrouver dans une situation qui est totalement absurde, et l'intervenant tout à l'heure faisait référence à la pression de l'AMF, mais je veux dire, il faut être prudent avec ce qu'a fait l'AMF, parce qu'en réalité aujourd'hui il y a un chantage qui est exercé et tout le monde est déjà en train de se projeter dans la suite. C'est-à-dire que Manuel Valls a bien compris le pouvoir de pression de l'AMF et il a dit les baisses de dotation seront gelées pour les collectivités qui se regroupent. Donc on est rentré maintenant dans un chantage entre le droit de conserver la démocratie locale, mais en se prenant les baisses de dotation de plein fouet, ou un gel temporaire évidemment, sous condition de regroupement et donc d'éloignement de la démocratie. Mais il faut bien se rendre compte de ce que ça veut dire, cette politique de baisse des dotations, cette politique d'austérité dont la loi NOTRe est le bras armé. Aujourd'hui, les collectivités territoriales, c'est 45% de l'investissement dans les différents domaines de notre pays. L'AMF elle-même chiffre que les conséquences des baisses de dotation sur des secteurs comme le bâtiment, ça peut être 80 à 100 000 emplois supprimés, pas non créés, supprimés. Pour vous donner un exemple, dans ma commune où je suis conseiller municipal, d'ici à 2017, la baisse des dotations va nous coûter de l'ordre de 11 millions d'euros. 11 millions d'euros, c'est le budget de fonctionnement cumulé de notre théâtre, de notre centre municipal de santé, de notre centre de loisirs et de notre kiosque d'information et d'orientation pour les jeunes. Donc c'est ça qui est aujourd'hui mis en balance par le gouvernement. C'est-à-dire que la baisse des dotations fait que la collectivité, demain, devra se trouver les moyens de faire fonctionner ses services publics et arbitrer entre les uns et les autres. Donc c'est ça que ça veut dire la loi NOTRe.
Oui, Antoine Meyer. Oui,
je pense effectivement que la contrainte budgétaire et la réduction du déficit public a été la clé qui a précipité ces réformes, qui était dans les tuyaux depuis longtemps, mais qui attendait. En fait, il fallait donner un signal à nos partenaires européens qui l'exigeaient, la simplification du millefeuille et la réduction des dépenses publiques. Alors, pourquoi, enfin, initialement, effectivement, on avait parlé de la suppression des départements, ce qui n'a pas été possible. Il y a eu une levée de bouclier des défenseurs des départements, et Manuel Valls est revenu. À taper sur le maillon faible qui était la région, le plus tard venu, et très peu de conseillers régionaux siègent à l'Assemblée nationale, au Sénat, et qui avaient des interlocuteurs, enfin, les défenseurs des départements sont beaucoup plus présents. Et c'est pour ça qu'on maintient le département et on a pu fusionner les régions, parce qu'il y a une question d'échelle, soit on maintenait les régions. Et en fait, on avait des niveaux intermédiaires qui étaient peut-être trop importants. L'idée c'était quand même de bâtir un système autour de l'intercommunalité ou des métropoles et à l'échelle supérieure, les régions. Finalement, on a maintenu les départements et on regroupe ces grandes régions, ce qui est une conséquence parce que c'est la dernière collectivité créée et finalement la plus faible. Alors, est-ce qu'on va arriver à des économies? Alors, il y a ce qui est imposé, effectivement, mais il y avait aussi des économies de fonctionnement qui étaient prévues. Monsieur Valigny parlait d'un moment donné d'une réduction de dépenses de l'ordre de 10 milliards. Aujourd'hui, il n'est plus question de ça. En moyen terme, les économies ont été repoussées au calendrier grec en disant par la suite, et dans bien des cas, les dépenses liées au fonctionnement vont, dans un premier temps, s'accroître, augmenter. Et voilà. Je pense que le grand test, par exemple, c'est chaque année 1 million d'euros de plus par rapport au fonctionnement. Et les élus eux-mêmes, qui sont payés en fonction du nombre d'électeurs qui les élisent, plutôt tendance à augmenter. Donc le premier argument de réduction des coûts, en fait, est un leurre. Et là-dessus, le gouvernement ne communique plus.
Monsieur Agostini, juste avant de faire une première pause musicale.
Oui, bah, un leurre dans une certaine mesure. Je pense qu'il faut, regarder les choses en détail. Bon, j'ai parlé du pacte de responsabilité et des conséquences, notamment pour les petites communes, hein, où les dotations de l'État représentent 40 à 50% de leur budget de fonctionnement. Mais par exemple, sur le maintien des départements, effectivement, la pression a été suffisamment forte pour maintenir les départements, mais à quelles conditions ? Je veux dire, les transferts de compétences aujourd'hui de l'État, avec non accompagnés des dotations qui permettent de couvrir les services qui vont avec, c'est aujourd'hui de l'ordre de 50 milliards d'euros de compétences transférées par l'État dont les ressources financières n'ont pas été données aux départements. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des départements qui deviennent en réalité des guichets de l'État pour les allocations, une partie des allocations sociales et de cohésion sociale, mais n'ont plus du tout les moyens en réalité de faire autre chose que de distribuer ces services sociaux-là. Hein. Et aujourd'hui, les départements ont intérêt à ne pas amener les citoyens à demander les allocations auxquelles ils ont droit. On estime aujourd'hui à 45% le nombre de gens qui ont droit à des services et des allocations versées par les départements et qui ne le demandent pas. Voilà, donc c'est ça les arbitrages du département. Donc, dans quelles conditions est-ce qu'on a maintenu les départements ? Aujourd'hui, je pense que la question, elle est très largement posée. C'est l'échelon de cohésion sociale qui est en train de sauter. Même s'il saute moins rapidement que l'avaient prévu les gouvernants, aujourd'hui, c'est un échelon de démocratie, de cohésion sociale et politique extrêmement important, répondant à l'intérêt général qui est en train de disparaître.
On revient sur ce contexte de dépolitisation après une pause médicale, la Boutchaka du groupe Kumbaya.
Amoche, vous les amochez. S'ils vous tuent, vous vous relevez.
Microclimat.
Microclimat.
Du 7 au 12 décembre 2015 sur Fréquence Paris Pluriel.
Conférences, débats, reportages, interviews.
Le climat prend le micro.
Pour suivre les mobilisations autour du climat à Paris et partout ailleurs. Microclimat. Une semaine de lutte pour le climat sur FPP 106.3 FM et RFPP.net. Le contre-sommet sur les ondes.
S'ils vous amochent, vous les amochez. S'ils vous tuent, vous vous relevez.
Microclimat.
Eh bien, bonjour de nouveau à tous. Nous continuons cette émission autour de la question de la nouvelle organisation territoriale de la République. Nous avons trois invités toujours présents. Antoine Beyer, enseignant-chercheur en géographie et en aménagement du territoire à Paris-Sorbonne, Mathieu Agostini, qui est secrétaire du PG, et par téléphone, David Guéranger, qui est chercheur en sciences politiques et enseignant à l'école des Ponts. Peut-être qu'on peut reprendre le débat en posant la question à Antoine Beyer, puisque vous êtes en particulier, vous intéressez plus particulièrement aux questions de transport. Est-ce que tout ce débat qu'on a eu dans cette première partie d'émission, où on voit un petit peu cette redistribution des compétences, alors sur les transports finalement, là, est-ce que les choses vont beaucoup évoluer ?
Non. Enfin, les répartitions restent à peu près les mêmes. Il avait été question pour le transport scolaire que ce soit basculé aux régions, ça. Je crois que ça reste au niveau des départements. Le transport ferroviaire, qui est la grande charge, enfin son organisation pour les régions reste aux mains des régions. Alors dans des nouveaux, enfin pour un certain nombre de régions, dans des périmètres beaucoup plus larges, mais là aussi les marges de manœuvre sont relativement faibles puisque le monopole de la SNCF comme exploitant est maintenu. Donc les libertés pour les régions restent restreintes. Au même moment, la loi Macron libéralise le transport par autocar. au-delà de 100 km, c'est-à-dire éventuellement à l'intérieur de ces très grandes régions. Et donc là aussi, sans qu'il y ait eu de concertation préalable avec et aucune discussion à ce niveau-là. Donc on voit bien que les marges de manœuvre de ces régions et des entités politiques locales restent extrêmement cantonnées et limitées par les décisions centrales. Et bon.
Mais néanmoins, quand même, sans prévoir le futur des aujourd'hui, mais est-ce qu'on peut quand même pronostiquer un petit peu que ce regroupement des régions, en 13 régions maintenant qui sont quand même relativement importantes, est-ce que du point de vue du transport, ça aura des conséquences, justement, en termes d'intensification des lignes, par exemple, de grande vitesse au détriment des lignes plus locales? Est-ce que ce phénomène qui est déjà largement entamé, mais est-ce que justement cet élargissement, cet approfondissement des régions risque pas d'avoir cette conséquence?
Ben si je prends les nouvelles régions, celles qui ont été fusionnées, elles n'ont pas été bâties autour de logiques territoriales fortes autour des transports. Ni autour des bassins. Enfin, on aurait dû commencer comme en fait, c'est-à-dire des zones d'influence pour voir quel est à l'échelle régionale les bassins de vie autour desquels l'organisation, les échanges industriels et les échanges quotidiens ou plus exceptionnels. Mais ça n'est pas le cas si on prend la région du Grand Est. On a évidemment la LGV, mais qui est le seul lien physique et qui entre Reims, la Lorraine et l'Alsace, mais qui n'est pas suffisante pour créer une région, hein, pour créer un sentiment régional et une réalité régionale. Et au sud, on a une autre ligne. Paris 3 et qui va jusqu'à Mulhouse, mais qui n'est même pas électrifié. Donc là, effectivement, la nouvelle entité régionale va se faire un devoir de l'électrifier en espérant créer des liens, mais une infrastructure n'a jamais donné un véritable sens à un sentiment de collectif. Hein, ça.
David Guéranger, quelques réactions sur ce point ou pas?
Je suis pas géographe, alors je manipule très mal les outils du géographe. Un élément de, alors deux éléments de réflexion sur les transports quand même. C'est pour apporter une petite nuance, c'est-à-dire que la régionalisation du transport ferroviaire, notamment dans la période d'expérimentation au début de la décennie 2000 que j'avais étudié avec quelques collègues, elle a quand même eu pour conséquence de revitaliser le transport ferroviaire régional. C'est-à-dire que on avait tout un ensemble de lignes régionales qui étaient en déperdition, qui absolument pas entretenu par l'opérateur, et le fait de transférer la compétence à une nouvelle autorité organisatrice qui était la région a eu pour conséquence d'investir à la fois dans le renouvellement du matériel, qui était très vétuste, hein, ce qui a occasionné des surcoûts, bien sûr. Donc, je rejoins ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que, voilà, les charges sont pas transférées de façon complètement équitable. De renouveler donc le matériel ferroviaire et puis aussi d'investir dans l'infrastructure. Donc, il y a eu quand même sur cette expérience-là, mais parce que les régions pouvaient se le permettre à ce moment-là. Ça c'est un élément de conjoncture extrêmement important. Mais il y a eu une amélioration quand même très nette de la qualité de service. Alors, avec des variations d'une région à une autre. Bien évidemment, on ne peut pas jamais parler comme ça de la décentralisation de manière si générale. Ça, c'est une remarque sur la question des transports. Après, sur les ciseaux du géographe, moi, je ne les manipule pas. Je veux juste noter que cette question du découpage régional, c'est une très vieille histoire. C'est-à-dire que c'est une histoire qu'on peut faire remonter, alors peut-être même avant, mais en tout cas au début du XXe, la manière dont le père fondateur de la géographie, Vidal de la Blache, essayait de définir des espèces d'entités à l'intérieur du périmètre national pour retrouver en quelque sorte des anciennes provinces. Ces questions et du découpage, elles ont évolué dans le temps. Et il me semble qu'aujourd'hui, il y a un modèle, alors en tout cas intellectuel, dominant pour penser le découpage, qui est effectivement le modèle polaire, c'est-à-dire en gros essayer de voir comment est-ce que on a une grosse métropole et puis comment est-ce qu'on examine son aire d'influence et son rayonnement sur un territoire pour essayer précisément ensuite de le découper. Ce, ce modèle-là, c'est un modèle qu'on retrouve dans l'esprit de la loi de redécoupage régional. C'est un modèle qu'on retrouve aussi dans la façon dont on évalue, on regarde le redécoupage municipal, hein, c'est-à-dire que il y a une espèce de d'alpha et l'oméga géographique du redécoupage municipal qui est la carte des territoires vécus de l'INSEE, hein, qui examine l'organisation de notre territoire en fonction des mobilités résidentielles. Entre autres choses, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais qui cherche en tout cas à modéliser le fonctionnement de notre territoire. Mais ceci ne nous dit rien finalement de la manière dont, une fois les ciseaux actionnés, les négociations politiques s'opèrent sur ces questions-là. Et alors, je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, hein, il ne s'agit pas du tout de décrédibiliser l'intérêt d'une approche géographique dans ces questions-là, mais dans le cas du découpage régional aujourd'hui, on voit que les accords politiques, et j'y ai pas eu accès, et je n'y ai pas accès, c'est-à-dire que je serais bien en peine de vous expliquer les tenants et les aboutissants de ces négociations-là, mais on pesait très très lourd dans la façon dont on a finalement décidé de découper le territoire national.
Mathieu Agostini, vous voulez réagir ?
Oui, oui, moi je crois que ce dernier propos est tout à fait juste. Je pense qu'on était déjà dans les négociations entre barons locaux et chacun négociant ses lieux de pouvoir. Enfin, je veux dire, il faut deux chiffres pour se rendre compte de l'absurdité totale de ce découpage. Le Poitiers-Bayonne, c'est 450 kilomètres. Hein, donc qui est une nouvelle région, si on prend deux quasiment extrêmes, quelle est la logique d'organisation territoriale lorsque deux villes sont séparées avec une telle distance. Pareil, on prend Rhône-Alpes-Auvergne, si on prend Moulins et puis le sud-est de la région, on est à 410 kilomètres. Donc vous voyez bien là l'absurdité totale, mais aussi le fait que ça va structurer totalement l'idée de l'organisation, notamment en matière de territoire. C'est qu'on va, on arrive là à des régions qui sont basées sur l'idée de compétitivité, de vitesse, de productivisme, etc., etc. Et alors, il y a quelque chose qui est très juste, c'est que les régions, quand elles ont eu la possibilité de le faire et les moyens de le faire, elles ont effectivement revitalisé une partie du réseau local. Mais en parallèle, ça s'est quand même fait avec en parallèle la fermeture d'un certain nombre de gares de proximité, qui est aussi une réalité. Donc on est dans ce double effet permanent de dégradation du service public, avec un deuxième élément très important, c'est les différences entre les territoires. Et que quand on organise un territoire de façon décentralisée, c'est aussi l'égalité républicaine qui en souffre profondément. En matière de transport, c'est une réalité, les fermetures de gares de proximité, et aujourd'hui, moi j'en suis convaincu, une organisation du territoire avec ses 13 grandes régions qui va accélérer une structuration autour de lignes à grande vitesse pour traverser ces grandes régions qui n'ont aucun sens, et compte tenu des contraintes budgétaires qui vont se faire au détriment des gares de proximité, des trains intercités, y compris maintenant en toute illogique écologique avec des cars Macron, etc., etc. Mais ce qu'il faut voir, c'est que les schémas régionaux sont prescriptifs. Donc, je veux dire, ça va s'imposer derrière et toutes les collectivités vont être obligées de dérouler ces schémas d'aménagement économique et donc de créer, à l'image du Grand Paris et de l'Arc Express, non pas un réseau de transport qui permette de faire du circulant au sein de l'Île-de-France, mais de relier les grands pôles de compétitivité et de concurrence et avec les aéroports au détriment des gens qui tous les matins, tous les jours font leur trajet domicile-travail. Donc on est dans une logique de spécialisation du territoire, de mise en concurrence au détriment de l'égalité.
J'aimerais revenir sur cette idée de principe et de schéma qui structure les régions. Là, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur l'idée qu'une métropole qui crée de la richesse dans l'économie telle que la conçoivent la plupart des spécialistes donc de l'innovation doit être redistribuée et innerver une région qui est plus vaste. Ça, c'est un peu le modèle qu'on retrouve assez facilement dans la partie sud de la France et qui justifie en partie le découpage de ces grandes régions. Si on regarde la partie nord, c'est là où se pose un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire que vous avez des régions qui n'ont pas été touchées, la région centre, il n'y a pas de métropole. Donc que va devenir dans le schéma ou dans l'idée qu'on s'en fait des régions qui ne disposent pas de métropole. C'est le cas aussi de la fusion Bourgogne-Franche-Comté. on a des métropoles qui n'ont pas la puissance et qui sont relativement mal localisées. C'est le cas de Strasbourg pour cette grande région qui va des portes de Paris jusqu'au Rhin. Et la seule métropole mondiale qu'on ait et pour laquelle on aurait dû élargir l'aire d'influence et qui aurait peut-être pu aussi redistribuer son dynamisme et sa richesse dans ce cadre-là, c'est-à-dire la région capitale, curieusement, on la maintient au sein de l'Île-de-France qui était déjà relativement étroite au moment où elle était dessinée. Donc là, il y a un paradoxe, c'est-à-dire qu'on a finalement fusionné des découpages politiques régionaux hérités. On n'a pas voulu retoucher les éléments de base de la construction et de l'architecture administrative française. Et je pense que ça, c'est une erreur. L'Oise est dans l'orbite directe de Paris, aurait dû être rattachée. De même, je veux dire, la Champagne est orientée, que ce soit Reims, Troyes, travaillant en étroite collaboration, et tout le système de transport qui va, et on voit bien les projets qui existent, c'est évidemment dans un accès et dans l'orbite de la région parisienne. Donc là, il y a quand même une ambiguïté dans la partie nord où on refuse de reconnaître le poids et le rayonnement de la région capitale sur les régions voisines qui sont dépourvues de métropoles.
Ça nous fait une habile transition peut-être sur le point 3 qu'on avait annoncé en début d'émission, qui est celle de finalement, bon, au-delà de ces différents constats, hein, quelles seraient un peu les possibilités, quelles seraient les alternatives qu'on pourrait opposer ou en tous les cas mettre en regard du processus de transition tel qu'il a été mis en place historiquement et très concrètement aujourd'hui avec la loi NOTRe. Est-ce que ça c'est sur le disons des schémas alternatifs éventuellement si ça peut être discuté comme ça. Et il y a peut-être un deuxième point sur lequel on n'est pas beaucoup intervenu et je crois que David Guéranguet a quelques idées là-dessus. C'est sur les modalités de mise en œuvre de ces réformes, dans lequel le caractère démocratique, on l'a évoqué, hein, les uns et les autres, est relativement absent. Est-ce que là aussi, alors sur le fond et sur la forme, est-ce qu'il y aurait une autre manière d'envisager un aménagement du territoire et une réforme territoriale en France? Peut-être David, et ensuite on passera la parole à Mathieu Agostini. Je sais que vous avez beaucoup travaillé hein, sur ces questions de rapports de forces locaux et d'absence hein, de démocratie dans ces réformes.
Oui, écoutez, je ne sais pas si je suis très 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 compétent pour essayer de produire comme ça là à chaud des alternatives. C'est une sacrée question que vous nous.
Si ce n'est les alternatives, en tous les cas, du point de vue des formes, du point de vue que, enfin, le caractère relativement antidémocratique qu'ont pris ces réformes, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Alors. Moi, je pense que on peut, en tout cas sur un plan, on va dire méthodologique, enfin problématique, et distinguer dans votre question deux aspects de la démocratie, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui a à voir avec la démocratie locale dans notre histoire de décentralisation, c'est-à-dire cette idée qui a toujours sous-tendu l'argument démocratique lorsqu'on a décentralisé, c'est de dire que parce qu'on est plus proche, la démocratie fonctionne mieux. On oublie juste une petite chose dans cette histoire, c'est que nos institutions locales sont des monstres institutionnels sur le plan démocratique. Pourquoi c'est des monstres institutionnels? Parce qu'il n'y a pas de théorie démocratique et politique dans la fabrique institutionnelle de nos institutions locales. Pourquoi? On a des institutions dont le pouvoir exécutif est une émanation du pouvoir législatif et dans lequel il n'existe pas de pouvoir judiciaire. Donc il n'y a pas de possibilité de contre-pouvoir aujourd'hui dans la façon dont fonctionnent nos institutions. Moyennant quoi, dire je décentralise donc je suis plus démocratique pose déjà un premier problème. Donc ça c'est, me semble-t-il, un premier élément de réflexion sur la façon dont fonctionnent nos institutions locales. La possibilité qu'elles laissent d'ouvrir le débat public, d'organiser les contre-pouvoirs, de structurer des clivages, de prendre enseignement de ces et prendre en compte ces clivages. C'est un premier élément en fait sur lequel je voudrais insister. Et puis le deuxième, c'est le processus démocratique de décentralisation proprement dit, c'est-à-dire comment aujourd'hui on fabrique de la décentralisation en France. Il y a certes un processus législatif, mais on voit que la part des négociations, des deals, des trocs qui se joue dans la façon dont, par exemple, on a redécoupé les régions, dans la façon dont on en rabat aujourd'hui sur tout un ensemble d'objectifs qui sont précisément démocratiques, et complètement coupé de toute possibilité pour le citoyen de s'informer et de prendre part à ce débat-là. De demander, par exemple, à ses représentants nationaux un certain nombre de comptes sur la manière dont il a pris position sur les questions de décentralisation. Parce que les associations d'élus, pour ne prendre qu'un exemple, n'ont pas besoin, en tout cas pas seulement, besoin de leur relais politique parlementaire pour avoir accès au cabinet du ministre de l'Intérieur ou à sa déléguée en charge de la décentralisation. Donc, il y a dans la fabrique des lois un problème, et je prendrai juste une illustration de ça. L'argument démocratique, je le disais tout à l'heure, il a servi à toutes les sauces de ces réformes de décentralisation dans l'histoire, moyennant quoi on a vu qu'il a pu prendre des formes très différentes. Historiquement, celui de la proximité, hein, cette espèce d'association quasiment immédiate entre le proche et le plus démocratique. On voit qu'aujourd'hui, bien évidemment, quand on redécoupe les régions, qu'on crée des métropoles ou qu'on fusionne des EPCI en milieu rural, l'argument de la proximité, on a du mal à le servir parce qu'il semble en contradiction immédiate avec ce qu'on est en train de faire. Alors qu'est-ce qu'on sert comme argument ? Ben, on parle de clarification, on parle de simplification, etc. etc. Donc on voit finalement que la plasticité de cet argument démocratique décentralisateur, moyennant quoi on a juste oublié en route quelque chose qui est quand même juste important, c'est la question du suffrage. Parce que aujourd'hui, j'ai envie de dire malheureusement, mais on ne sait pas faire mieux pour faire fonctionner la démocratie. Et cette question du suffrage, on l'a à tel point abandonnée que je prendrai un exemple, c'est que la question de la création d'une circonscription électorale pour les métropoles qui sont pas encore créées, donc je pense à la métropole de Marseille et à la métropole de Paris, pour les structures intercommunales qui existent depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, cette question-là, qui est sur l'agenda politique depuis 40 ans, aujourd'hui, elle n'y figure plus. Et pourquoi est-ce qu'elle n'y figure plus ? Parce qu'on a organisé un cache-sexe, enfin on a produit un espèce de cache-sexe démocratique au moment de la réforme des collectivités territoriales en 2010, qui s'appelle le fléchage, et on considère qu'avec le fléchage, c'est-à-dire en ayant deux colonnes sur son bulletin de vote quand on se rend au municipal, on a réglé la question démocratique. Moyennant quoi, c'est une entorse absolument fondamentale, c'est une usurpation de ce que c'est que le fonctionnement démocratique de nos institutions. Donc voilà, deux éléments, deux pistes de réflexion sur les trompe-l'œil démocratiques de notre décentralisation en France.
Merci. Mathieu Agostini, peut-être pour quelques mots, on s'approche très 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 rapidement de la fin,
oui,
donc quelques mots peut-être finaux.
Très rapidement, je pense que dans cette période, y compris renforcée après les attentats dont nous avons été victimes, plus que jamais, il est nécessaire de faire république. On a besoin de liberté, d'égalité, de fraternité. Cette loi NOTRe, en réalité, s'y oppose frontalement. Elle s'oppose frontalement à la devise de notre République. Et je pense que l'état d'urgence, sa prolongation, les modifications législatives qui vont avec, renforcent cette analyse-là. Je pense que une des premières mesures est de se débarrasser de la Ve République, qui est non seulement rentrée dans une phase post-démocratique, mais y compris est en train de rentrer doucement, on l'a vu avec l'état d'urgence, dans une période extrêmement autoritaire. Juste pour vous donner un exemple lié au conseil municipal des Lilas, et j'en parle pas forcément uniquement parce que j'y suis élu, mais parce que le maire des Lilas est l'ancien président du syndicat mixte de Paris Métropole. C'est très révélateur, je trouve, de ce qui se prépare. Le conseil municipal des Lilas, aujourd'hui, est en train de devenir une chambre d'enregistrement. Le maire se fait voter régulièrement des délégations de pouvoir du conseil municipal vers le maire, et on est au courant, au final, de ce qui se passe au travers des arrêtés sur lesquels on a le droit de demander une information. C'est un exemple local, mais qui répond immédiatement aux enjeux autour de la loi NOTRe, mais y compris de ce qui se passe nationalement avec l'état d'urgence. Donc je pense que la première mesure est de convoquer une assemblée constituante. Il faut que le peuple fasse irruption et puisse se réapproprier réellement son projet politique. Il faut qu'on puisse faire république et que le peuple soit en capacité de décider de son intérêt général et de la façon dont il veut s'organiser politiquement. Et je suis d'accord avec l'idée qu'il faut de l'éthique en politique, que il faut en finir avec ce système pourri où, une fois que le bulletin de vote a été mis dans l'urne, les élus n'ont plus à rendre compte. On défend, dans le cadre de la campagne régionale par exemple, mais à d'autres moments, ces chartes éthiques, et notamment la capacité, par exemple, de la révocabilité des élus. C'est-à-dire que, à mi-mandat, puissent être convoqués des référendums révocatoires, et au moment de bilan, y compris des élus. Mais c'est aussi toute une série de lois et de lois d'importance pour éviter les conflits d'intérêts, les pantouflages, etc., etc. Un dernier élément, en un mot, je pense que ça passe aussi par la démocratie en entreprise. On a énormément parlé du territoire, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, les travailleurs doivent être citoyens dans l'entreprise et ça passe par la capacité à s'opposer à des projets de la direction, et ça va évidemment dans un sens totalement contraire aux attaques du gouvernement Valls contre le droit des travailleurs en entreprise. Donc faire république, que le peuple fasse irruption enfin pour que le projet national réponde enfin à l'intérêt général.
Antoine Beyer, désolé, on va devoir rendre l'antenne. Je vous remercie tous d'avoir participé à l'émission. Nous, on se retrouve à la Fondation Copernic le vendredi 25 décembre. Oui, une émission sur les réformes du droit du travail. Bonne soirée à tous. Et on se quitte avec Patti Smith, People Have the Power.